CFM Corde, le mag.
Ah, quel plaisir de retrouver Rémi Culic du Jardin des Merveilles de Vaour sur CFM Radio. Vous écoutez Plantes et Histoires de Plantes. Et Rémi est là pour partager ses connaissances en botanique, en permaculture et en connaissance aussi du sol vivant ou pas d'ailleurs. Salut Rémi.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui Rémi, on va s'intéresser aux plantes essentielles dans le potager, hein, parce que là on est au printemps, c'est quand même une période charnière pour le potager, pour le jardin aussi. Et le terme essentiel, là, depuis un an, revêt aussi un caractère particulier. On parle de commerce essentiel ou non essentiel. Et pour les plantes, c'est pareil. Est-ce que c'est à nous de faire la distinction de ce qui est essentiel ou pas?
Alors oui, complètement. Je dirais c'est tout n'est pas essentiel pour tout le monde. Chacun va avoir les choses qui lui sont essentielles propres. Donc ouais, le lien est sympa avec tout ce qui est commerce essentiel. Si on fait au cas par cas, au final, tout peut devenir essentiel.
Ouais. Alors, mais quand même, on peut se dire que bon, dans un potager, en fonction de l'utilisation et des besoins que l'on a, il y a des choses qu'il faudra avoir.
Complètement, oui. Après, ça peut être très large. Pour certains, ça sera vraiment de l'alimentaire, c'est quoi les légumes essentiels. Pour d'autres, ça sera vraiment le soin, donc ça sera c'est quoi les plantes médicinales importantes. Donc voilà, il y a quand même pas mal de trucs qui se retrouvent, pas mal.
Bon, alors essayons de brosser un peu tout ça. On va prendre cas par cas. Prenons le cas de quelqu'un comme toi, moi, voilà, qui avons des vies trépidantes, qui aimons bien nous nourrir, qui aimons nous soigner aussi avec avec les plantes, qui aimons recevoir des copains à la maison pour faire une tisane, quelque chose d'assez original, et qui aimons prendre soin aussi de l'environnement, de pas trop le gâcher. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'aie dans mon potager?
Alors, si tu aimes bien manger déjà, il va falloir des légumes. Moi, ce que j'aime bien de plus en plus, c'est des choses qui sont pas trop compliquées, pas trop difficiles à produire et pas trop difficiles à garder. Et donc, je me fixe beaucoup sur les légumes vivaces. Dans les légumes vivaces, on va avoir des choux qui sont vivaces et on les plante une fois et puis on va avoir un buisson de choux à récolter quand on veut. Ou des oignons vivaces, ou après il y a de la consoude, ou de l'ortie, ça peut se manger aussi. On va, avec l'ortie, on va pouvoir même faire le parallèle avec le médicinal. Tu veux faire des tisanes? Et bien, il y a des plantes médicinales qui poussent très très bien chez nous. On peut planter de la menthe, on peut planter de la mélisse et qui va se ressemer toute seule. Et on sait qu'une fois que ces plantes-là sont implantées, on a qu'à aller se promener un petit peu dans son jardin, aller faire 2-3 cueillettes. Et en quelques secondes, on peut avoir de quoi se faire une tisane rapidement.
Mmh. Ce sont souvent des plantes qui prennent de la place. Donc, il faut aussi faire attention à la zone où on les installe, ces plantes-là.
Exactement. Ça prend de la place et ça prend pas n'importe quelle place. Donc, c'est vrai que là, tu disais, on est sur la période où on va mettre ça en place. Donc, c'est peut-être le bon moment pour repérer dans nos jardins. C'est quoi l'endroit le plus ensoleillé avec une bonne terre? Et là, on va faire du légume. C'est quoi les endroits les plus humides? On va pouvoir faire certains types de plantes, de l'angélique ou de la menthe qui poussent dans les zones humides. C'est quoi les zones les plus sèches et les plus arides qu'on pourrait dire incultes, mais sauf que sur ces zones-là, on va pouvoir planter tout ce qui est plantes méditerranéennes, les thym, les romarins, les sarriettes, toutes ces plantes qui ont vraiment besoin de chaleur et de soleil, on pourra les mettre ici. Et puis, savoir penser à se garder des petites zones sauvages, parce que même dans les plantes sauvages, on va pouvoir trouver des choses qui sont alimentaires, qui sont médicinales, ou alors on va pouvoir y implanter, moi ce que j'aime bien appeler les plantes de service. Plantes de service, c'est pas les plantes qu'on va consommer nous directement, mais qui vont être intéressantes pour favoriser la biodiversité, produire des plantes qu'on va pouvoir couper pour produire du paillage, pour enrichir nos sols. Donc voilà, il va y avoir plein de types de plantes qu'on pourra mettre, surtout sur les bordures ou dans les zones dans lesquelles on va un peu moins souvent, par exemple.
Des exemples de plantes de service?
Alors, il y en a énormément. Donc là, je disais, par exemple, tout ce qui est plantes mellifères. Donc, on a des arbres qui sont hyper intéressants. Le robinier qui pousse très, très bien ici. Le sophora du Japon qu'on appelle l'arbre à miel. Ça peut être tout ce qui est plantes fixatrices d'azote qui vont, avec des symbioses au niveau des racines, fixer l'azote et enrichir nos sols en matière azotée et permettre à d'autres plantes de mieux pousser à côté. Ça peut être un arbre comme le polonia qui est l'arbre à la croissance la plus rapide et qui pousse ici et qui, en une année, va produire beaucoup, beaucoup de bois qu'on va pouvoir tailler. On va pouvoir le trogner tous les ans. Et avec ce bois qu'on va tailler, on va enrichir le taux de matière organique du sol. Donc c'est des plantes qui vont aider nos systèmes à être plus productifs, sans nous servir à nous directement, mais en servant nos sols, en servant la biodiversité, et faire en sorte que nos systèmes, nos projets soient de plus en plus productifs et résilients.
Et en t'écoutant, je fais une petite digression parce que l'agriculture intensive a peut-être un peu trop, orienté les méthodes de travail, même en potager. Mmh. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir un potager, c'est un beau carré, bien droit, bien nu. où il n'y a pas d'arbre, où il n'y a pas d'ombre, où parce que en agriculture intensive, c'était soi-disant parce qu'il faudrait que les tracteurs puissent se mouvoir et tourner assez facilement. Mmh. Et ça aussi, il faut réfléchir aux différents étages végétaux dans un potager. Donc, on n'est pas exactement sur les plantes essentielles, mais quand même, on est toujours sur ce sujet-là.
Mmh. Alors, complètement, mais du coup, ça me fait penser à... L'an dernier, j'ai eu, une des premières fois, en plein été, les tomates ne produisent plus, août, septembre, beaucoup trop de chaleur. Et on entend de plus en plus aujourd'hui parler de poser des ombrières. On fait un jardin, on va mettre des ombrières pour faire un peu d'ombre, parce que en plein soleil, ça ne produit plus. Et bien, pourquoi pas remplacer ces ombrières par des structures sur lesquelles on va faire pousser des plantes, par exemple de la vigne. Et donc, on va parler, donc effectivement, comme tu dis, de culture multi-étagée. Plutôt que d'avoir juste notre potager en plein soleil, et bien mettre des arbres pour faire de l'ombre. Dans ces arbres, pourquoi pas y faire grimper de la vigne. Et chaque espace va pouvoir être occupé par différents types de plantes qui vont produire du fruit, qui vont produire des fleurs, qui vont produire de la végétation et qui vont permettre au reste du système d'être encore plus productif. Donc plutôt que de juste poser une ombrière qui ne fasse que de l'ombre, c'est aussi un des trucs en permaculture, on essaye de faire en sorte que chaque élément ait plusieurs fonctions. Donc au lieu de poser juste une ombrière qui ne fait que de l'ombre, on va créer une ombrière végétale qui, en plus de faire de l'ombre, va nous produire une ressource alimentaire, du fruit, de la plante médicinale, du feuillage ou autre.
Et ça, c'est aussi une des valeurs qui est propagée par la permaculture, c'est de dire que les plantes rendent plusieurs services. Donc elles vont à la fois peut-être nous nourrir, mais entre elles aussi, on parle souvent d'ailleurs d'associations de plantes. Et dans ces plantes essentielles là, on peut aussi se renseigner pour voir comment les disposer afin qu'elles elles travaillent en symbiose mutuellement. Je vais utiliser cet oxymore là pour essayer de m'expliquer un peu, mais de dire que parmi ces plantes essentielles-là, faisons attention à celles que l'on met à côté d'une autre, quoi.
Exactement, c'est très important ça. Alors on pourrait faire une grosse chronique là-dessus. En gros, j'aime bien voir ça comme, j'appelle ça des guildes. Moi, chaque plante va avoir un intérêt. Il y a une guilde très très simple qui s'appelle la milpa ou les trois sœurs que pratiquent les Incas. C'est maïs, courge, haricot. Le haricot grimpe sur le maïs. Le maïs... Lui va produire donc le support pour l'haricot et il a besoin d'un sol humide. À côté, on va faire une courge qui va couvrir le sol et garder ce sol plus humide pour le maïs. La courge, elle, a besoin d'un sol assez riche en matière azotée et cet azote est produit par le haricot qui grimpe sur le maïs. Donc chaque plante va servir à l'autre. Et l'idée, c'est de voir ça un peu comme chaque végétal qu'on va implanter dans notre jardin a des besoins et a un rôle sur ce projet. Et en interconnectant tous ces rôles-là et tous ces besoins-là, on va réussir à avoir ce qu'on appelle des cultures associées qui sont en symbiose et vont être tout ensemble beaucoup plus productives que si elles étaient chacune de leur côté.
Et puis, il faut penser à mettre des fleurs dans le potager. Si on a de la place, faire une mare aussi qui va attirer des insectes, qui vont permettre de polliniser, d'avoir encore plus de fruits ou de fleurs sur le potager. Avoir aussi des plantes engrais. Hein. Tu en as cité quelques-unes qui permettent, lorsqu'on les coupe ou lorsqu'on les taille, de nourrir et d'amender des fois aussi le sol. Pour ceux qui ont pris la chronique en cours et qui n'ont pas eu le temps de tout noter, il faut savoir qu'elle est à retrouver en podcast sur fmradio.fr et je vous invite aussi à faire un tour sur la chaîne YouTube du Jardin des Merveilles de Vaho. On retrouve Rémi régulièrement en vidéo.
CFM Radio, votre radio dans le Tarn.
Sur la connaissance aussi des plantes. Merci Rémi et à très vite.
Merci à toi, avec plaisir, à bientôt.